Je vais lire avec vous un texte de l'Écriture, non pas pour mentionner la persécution, parce que je crois que dans notre pays, en tout cas ici, chez nous, nous ne subissons pas la persécution. La persécution, c'est bien autre chose que les tracasseries que nous pouvons peut-être connaître, certains d'entre nous. Mais quand même, le diable essaie de détruire son Église. Il essaie de le faire dans les pays où... les églises sont persécutées, et il essaie de le faire aussi chez nous, où nous vivons dans la paix, où nous vivons dans la tranquillité. Il essaie de le faire par le découragement, il essaie de le faire par les divisions, il essaie de le faire par toutes sortes de moyens. Il est peut-être intéressant aussi de souligner que dans les pays où il y a aujourd'hui la persécution, certains pays musulmans, je pense à l'Afrique du Nord, et en particulier à la Kabylie, peut-être aussi à la Tunisie, donc une partie de l'Algérie, où il y avait au début du christianisme des églises importantes avec de grands théologiens comme Augustin, saint Augustin par exemple. Aujourd'hui, il serait peut-être tunisien, voilà. Et puis la Turquie aussi, les églises que l'on rencontre dans le ministère de l'apôtre Paul sont situés dans le pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Quel est le nombre de chrétiens en Turquie, ou le nombre d'églises en Turquie aujourd'hui? Je crois qu'on peut peut-être les compter sur les doigts de nos mains. Alors je vous invite à lire avec moi dans la deuxième épître de Paul à Timothée, à la fin de cette deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, au chapitre 3 d'abord, pardon, nous lirons les versets 10 au verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 15. Alors, cette lettre, l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, l'a probablement faite en 66 après Jésus-Christ, donc dans le premier siècle. Il est en prison à Rome, c'est ce que nous dit le chapitre 1er. Probablement, il a été arrêté en Asie mineure, donc la Turquie actuelle, peut-être à Éphèse, peut-être à Troas. Et il sait que sa mort est prochaine, que ce sont ses derniers jours qu'il est en train de vivre. Alors, tout d'abord, lisons au chapitre 3, verset 10. « Pour toi, dit-il à son disciple, jeune disciple Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Puis un petit peu plus loin, donc dans le chapitre 4, du verset 9 à 22, l'apôtre Paul donc termine son épître en disant ceci à Timothée: « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luttez seul avec moi. Prends Marc. » Et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, Mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Il y a beaucoup de nostalgie dans ces dernières paroles de l'apôtre Paul. Beaucoup de compassion, d'amour fraternel également. Et il y a deux mots que j'aimerais citer pour résumer peut-être ces dernières paroles de cet épître. C'est le mot solitaire. L'apôtre Paul est solitaire. On l'est quand on est en prison, coupé de ce qu'on aime, loin de ce qu'on aime. Et le mot solidaire. Parce qu'en étant seul dans sa prison, en étant isolé, cette lettre montre combien il n'est pas seul, mais combien il a des frères et des sœurs qui non seulement prient pour lui, mais pensent aussi à lui, se soucient de lui, et il a particulièrement besoin de la compagnie de ses frères et sœurs. Mais on sent que cette solitude lui pèse. Il parle de ceux qui sont partis pour la cause de l'Évangile. Alors c'est Crescent, c'est Tite, c'est Tychique, c'est Timothée. Puis avec tristesse, il dit que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. On dirait dans notre langage évangélique qu'il est retourné dans le monde. Il n'a plus suivi le Seigneur. Voilà, il a fait le choix de le chemin large plutôt que du chemin étroit. Mais Paul ne souffre pas seulement d'être abandonné par ceux qui l'ont quitté. Il souffre aussi de la part de ceux qui lui ont fait du mal. Et Alexandre, le forgeron, s'est opposé à lui. Il a probablement tenu des propos qui allaient à l'encontre du message de l'Évangile, que Paul a dû sans doute corriger dans son ministère d'apôtre. Il a probablement essayé de détruire ce que l'apôtre Paul a construit. Je pense que nos églises, qui sont des corps vivants, Paul compare aussi l'église à un corps formé d'organes ou de membres, tous utiles, même sans doute nécessaires les uns par rapport aux autres. Eh bien, dans nos églises, nous passons aussi par ce genre de difficultés, ce genre d'expériences, ce genre de situations. Des personnes nous quittent, d'autres nous rejoignent. Des personnes nous quittent pour aller dans une autre église évangélique, d'autres pour aller dans le monde. Des personnes parfois aussi viennent semer le trouble et peuvent troubler en tout cas certains chrétiens ou viennent semer la pagaille. Lorsque quelques-uns d'entre nous ont essayé de distribuer des affiches pour l'exposition de ou des églises baptistes chez les commerçants de la rue nationale, plus que les autres fois, ils ont essuyé un échec, un refus. Non, non, nous ne voulons pas de ça. Non, non, ça, c'est que ce que c'est que ça, c'est une église, nous n'en voulons pas. C'était difficile de mettre des affiches chez les commerçants de la rue nationale. Et puis, une personne qui travaille dans un magasin m'a dit qu'elle avait mis à disposition des flyers, des invitations, et que quelqu'un qui est venu pour acheter quelque chose s'est vraiment mis en colère quand il a reçu cette invitation. Disons, je vais aller, excusez l'expression, foutre la pagaille là-bas, mais c'est pas possible, elle utilisait des gros mots. Et il voulait même venir hier soir au vernissage, mais fort heureusement, après une gamme, je ne pourrais pas jouer autre chose. Pourquoi cette hostilité? Pourquoi cette violence lorsqu'il s'agit d'une église qu'on ne connaît pas bien, qui est peut-être ou même de toutes les églises, puisque aujourd'hui il y a des écrits de soi-disant philosophes qui circulent sur une très très grande échelle et qui prétendent que les églises catholiques, protestantes, sont à l'origine de la violence qui existe dans notre monde. Il y a eu les persécutions, les croisades, tout ce qui a essayé de museler la liberté chrétienne. Donc les églises sont en général liberticides, empêchent la liberté des gens, empêchent de faire ce qu'on veut. Et qu'il faut donc lutter contre ça, surtout pas l'église. Voilà la mentalité que nous rencontrons aujourd'hui et qui est véhiculée par ceux qui ont la parole à la radio, à la télévision ou dans les librairies. L'apôtre Paul s'est même retrouvé seul, dit-il, dans sa première défense. En tant que citoyen romain, il avait droit à un avocat pour le défendre. Mais personne n'a voulu se mettre à son côté, comme si c'était un Klaus Barbie ou je ne sais trop quel grand criminel. Peut-être par peur d'être reconnu chrétien et d'en subir les conséquences. Alors Paul a dû se défendre tout seul. Quelle affreuse solitude pour un homme qui travaillait toujours en équipe, qui visitait les églises, qui aimait par-dessus tout la communion fraternelle. Pourtant, malgré cet abandon, cette tristesse, Paul n'était pas découragé. Et je crois que c'est là le message qu'il nous livre essentiellement à la fin de cette épître. Il ne faut pas être découragé par les circonstances qui pourraient nous décourager. Il ne se laisse pas abattre. Il sait qu'il n'est pas seul. Et à plusieurs reprises, il dit « Mais le Seigneur était avec moi. Le Seigneur m'a défendu. » Voilà. L'homme a failli. Ses amis, ou peut-être ceux qui auraient dû se trouver à ses côtés, ont failli. Mais le Seigneur, lui, n'a pas failli. Il est sa force, il est son avocat, il est son consolateur, il est son secours. Il a été tellement épaulé par le Seigneur qu'il n'a pas craint de prêcher l'Évangile à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Il aurait pu très bien dire, et c'est peut-être ce que nous aurions fait, « À quoi bon, puisque je suis arrivé à la fin de ma vie, puisque je suis abandonné de tous, à quoi ça sert? Que vont devenir ceux à qui je prêche l'Évangile ?» Non, il sait qu'il peut compter sur le Seigneur et qu'en définitive, il est entre les mains de Dieu. Et c'est ça qui peut paraître aussi un peu surprenant. Un tel homme, si proche de Dieu, qui a fait tant de choses extraordinaires pour le Seigneur, Dieu l'abandonne. Enfin, l'abandonne, entre guillemets. Il ne l'abandonne pas, mais il l'abandonne à sa solitude. Il le laisse seul, à la persécution, dans sa prison, à l'abandon de ceux qui lui étaient chers. Oui, je crois que nous aussi, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de difficultés, d'abandon, de solitude. Mais le Seigneur est là, et bien sûr, les frères et sœurs sont là aussi. Il est de la même nature que nous. Il n'a pas dit « Je n'ai pas besoin des autres puisque j'ai le Seigneur ». Au contraire, c'est là que s'exerce la solidarité. Il a des frères, il a des sœurs qui non seulement prient pour lui, mais pensent à lui. Alors, il vit un peu aussi dans le souvenir des expériences passées. Prisca et Aquilas, chez qui il habitait à Corinthe, couple remarquable. On a l'impression que dans leurs déménagements successifs, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à cette époque, il n'y avait ni TGV, ni avion, évidemment, on voyageait quand même beaucoup. Et si vous voyez un peu le parcours de Priscille et d'Aquilas, on les trouve à Rome, on les trouve à Corinthe, peut-être ailleurs encore. Voilà ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et puis il y a Éraste, le trésorier de la ville de Corinthe, le percepteur municipal de la ville de Corinthe. Puis il y a Trophime, L'un des compagnons de Paul, lors de son troisième voyage missionnaire, qu'il a laissé malade à Milet. Lui, Paul, quand il était à Éphèse, on appliquait des linges qui avaient appartenu à Paul sur les gens, ils étaient guéris et les démons partaient, nous dit le livre des Actes, vers le chapitre 16, par là. Il a laissé Trophime malade à Milet. Et puis il y a les frères et sœurs de l'église de Rome, Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, une femme, et tous les frères de Rome. Il sait qu'il est entouré par ses frères et sœurs qui sont prêts. Ils sont prêts à lui rendre visite, si cela leur est permis. Et puis il y a Luc. Luc qui restait à Rome auprès de Paul. Il est là. Voilà, il n'est pas tout à fait tout seul, puisque Luc, je pense, il lui rend visite. On n'a pas l'impression que Luc est prisonnier avec Paul. Mais il est là, il sait qu'il peut compter sur un homme fidèle, compagnon de route aussi depuis longtemps, auteur de l'évangile de Luc, des actes des apôtres, qui à maintes reprises a été le compagnon de voyage dans ses tournées missionnaires avec l'apôtre Paul. Et puis il y a Timothée. Alors Timothée, c'est le fidèle disciple que l'apôtre Paul réclame. Paul sait qu'il est à la fin de sa vie. Et Timothée, c'est un peu comme celui qui va continuer, d'une certaine façon, l'autre génération qui va venir après et qui va continuer l'œuvre de ces pionniers, de ces apôtres qui meurent tous les uns après les autres. Une grande solidarité unit ces hommes autour de l'annonce de l'Évangile. Un grand amour les réunit. Paul a besoin de Timothée, viens ou plutôt vers moi, tâche de venir avant l'hiver. On imagine mal, je crois, aujourd'hui, la distance que ces gens parcouraient. Hein? Timothée était à Éphèse, je ne sais pas si vous imaginez, entre Éphèse et Rome. C'est pas facile. Prendre la mer, ça ne se faisait pas en hiver, pendant peut-être la moitié de l'année. Les bateaux ne circulaient pas par crainte des tempêtes et des naufrages. Alors on voyageait comment ? À pied, à dos de cheval, il n'y avait pas de carrosse à cette époque, c'était pas évident. Et pourtant, tâche de venir avant l'hiver. Apporte-moi le manteau. Il n'y avait pas de cheval central à la prison de Rome où il se trouvait. Oui, on voit là les besoins à la fois matériels, mais aussi affectifs de cet apôtre Paul. Et puis, apporte les livres et surtout les parchemins. Voilà, c'est extraordinaire. Cet homme, à la fin de sa vie, il sait qu'il n'en a que pour quelques jours, tout au plus quelques semaines. Il cherche encore à s'instruire, peut-être à écrire encore. Il travaille sans relâche, toujours, pour le Seigneur. Alors, je crois qu'il est avant tout solidaire de l'annonce de l'Évangile. Il sait que sa dernière heure va sonner, que le moment de son départ est proche, mais son œuvre ne va pas s'arrêter avec lui, parce que c'est avant tout l'œuvre du Seigneur. Et d'une certaine façon, oui, le Seigneur a besoin, il l'utilise, il compte sur ses enfants, sur ses instruments, sur ses serviteurs. Mais c'est avant tout son œuvre qui s'accomplit avec les hommes, les moyens, dans les circonstances que Dieu permet. Et c'est cela que l'apôtre Paul voit et qui lui permet d'être aussi encouragé. Après 30 ans de ministère épuisant, on l'a vu, hein, l'apôtre Paul, il a subi toutes sortes de difficultés, probablement vieillard avant l'âge, il est extraordinaire. Jusqu'à la dernière minute, il travaille pour le Seigneur. Alors voilà, j'aimerais maintenant juste souligner encore, peut-être pour reprendre quelques points pour résumer. Solitaire, l'apôtre Paul l'a été. Et nous le sommes aussi souvent. Nous avons parfois l'impression que nous ne sommes pas compris en tant que chrétiens, que ce soit par les membres de notre famille qui ne le sont pas, par nos amis, par nos voisins, mais parfois aussi par les membres de notre Église. Solitude de celui qui veut suivre le Seigneur. Quelle est notre attitude ? Découragement ? Oh oui, nous avons bien des moyens, bien des raisons bien des occasions d'être découragé. Attristé, certainement aussi, surtout quand des personnes rejoignent le monde ou ne suivent plus le Seigneur après leurs promesses. Regardons à Paul. Il était solitaire, mais certainement pas découragé. Solitaire, mais solidaire de l'œuvre de Dieu, avec le Seigneur en premier, avec les frères et sœurs sur une plus grande échelle. C'est lui, le Seigneur, qui nous renouvelle. Lui, il nous abandonne jamais. Et vous avez pu constater aussi que par rapport à cet Alexandre et par rapport aussi à celui qui n'a pas assisté dans sa défense, il dit que c'est le Seigneur, voilà, qui il remet tout cela au Seigneur. Pas de jugement, pas de critique, pas non plus d'imprécation. Il dit simplement, je remets tout cela au Seigneur. Et puis, solidaire dans le message à transmettre aux autres, nous ne pouvons peut-être pas le faire nous-mêmes, en tout cas, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Peut-être sommes-nous trop âgés, peut-être sommes-nous malades, on peut évoquer toutes sortes de raisons, sommes-nous occupés. Mais Paul avait le souci de passer le relais à d'autres, à ceux qui pouvaient prendre sa place. Et quelle joie quand on sait que le flambeau continue de brûler, voilà, que en fait l'évangile continue de se propager, que l'évangile progresse, et l'évangile, le Seigneur permet qu'il progresse dans notre monde. La solitude n'est pas toujours une mauvaise chose. Sans cette solitude de Paul, en prison, on n'aurait peut-être pas eu cette deuxième épître à Timothée. Ce n'est pas une raison pour dire, c'est bien que l'apôtre Paul ait été en prison. Mais ces temps de solitude, et en tout cas pour Paul dans sa prison, peuvent être utilisés pour approfondir notre connaissance de Dieu, notre vie de prière, pour faire l'expérience de la proximité de Dieu. L'expérience aussi de se rendre compte que nous avons des frères et des sœurs, au loin comme au près. Et cela, c'est quelque chose de précieux. Souvent, les hommes de la Bible ont été très solitaires. Je pense par exemple à Moïse, critiqué par ce peuple qui l'a conduit hors de l'esclavage et qui lui reprochait de ne plus manger les tomates, les cornichons, enfin je ne sais plus, peu importe, d'Égypte. Voilà. Élie. Quel homme solitaire que ce prophète de Dieu, au point qu'il va demander la mort, découragé qu'il est après l'expérience du Carmel. Jésus aussi abandonné, même par ses disciples. L'apôtre Paul, ici, dans cette expérience qu'il décrit. Voilà des hommes de Dieu qui n'ont pas regardé à ceux qui ne les avaient pas suivis, mais qui ont fait appel au Seigneur. Cette solitude aussi, nous pouvons la retrouver dans la prière. Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Un moment de solitude qui est nécessaire pour passer un moment avec le Seigneur. Et comme Jésus qui a passé du temps seul dans la prière avec son Dieu, Jésus a toujours exercé un esprit de solidarité envers ses disciples. Toujours il les a défendus devant les autres, devant les pharisiens. Il a pris leur défense, il les a secourus lorsqu'ils étaient en danger. Son secret était sans doute dans la solidarité avec son Père, et aussi sans doute aussi dans la formation qu'il apportait à ceux qui ensuite allaient prendre la relève. Alors le diable essaie toujours de nous décourager, de nous déstabiliser, de trouver le défaut de notre cuirasse, peut-être aussi de notre solitude, peut-être aussi dans notre solidarité qui peut s'effriter. C'est toujours, bien sûr, avec tristesse qu'on assiste à des ruptures, à des désistements, à des séparations. Mais combien il est important de rester dans cette solidarité qui nous unit dans l'œuvre de Dieu, car c'est cela qui compte avant toute chose, être unis dans l'annonce de la parole de Dieu. Et je termine juste, maintenant pour de bon, avec le dernier verset. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Il s'adresse à Timothée personnellement. Il souhaite que le Seigneur soit avec Timothée profondément, intimement, dans son esprit. Voilà, que ce soit le Seigneur qui dirige Timothée. La prière ici de Paul, c'est Timothée en tant que personne, comme quelqu'un qui continue à porter le flambeau de l'Évangile. Et puis sa dernière parole, que la grâce soit avec vous. Il s'adresse à Timothée, que le Seigneur soit avec ton esprit, mais en disant que la grâce soit avec vous, au-delà de Timothée, c'est l'Église ou les personnes à qui Timothée a lu cette lettre et qui entourait Timothée dans l'Église ou les Églises où il se trouvait à Éphèse. C'est donc un pluriel. Voilà, on retrouve cette personne solitaire, Timothée, individuelle, et ce « vous » collectif. Et on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. Et je crois qu'il est important de considérer toujours les deux dans notre vie d'Église et dans notre vie chrétienne. Amen. Je vous invite à prier alors si le culte s'achève. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es toujours avec nous. Et en quittant ce lieu, nous savons que tu le resteras, que tu n'es pas attaché à ce bâtiment, mais que tu es attaché à notre corps. Seigneur, pardonne nos manquements, surtout fraternels, à l'égard des autres, si nous avons été source de découragement. Aide-nous à être un encouragement toujours et à œuvrer pour ta gloire, pour l'annonce de ta parole dans notre ville, dans notre pays, là où l'Évangile a besoin d'être annoncé. Et que nous sachions donner aussi l'image d'un peuple qui ne se contente pas de chanter tous unis, mais qui le vit dans un esprit d'humilité, un esprit d'affection fraternelle, un esprit de service. Seigneur, nous te louons pour ce que tu fais en nous. Merci pour ta vie. Merci pour la vie de nos églises. Elles sont ton église. Elles sont entre tes mains. Fais encore renouveler chacun d'entre nous dans ce que tu attends de nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.